nous nous retrouvons pour une série consacrée.
Nous attachés à quatre faits marquants de votre
passé. Une demi-heure ensemble pour
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Daniel Piston, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Canal Académie. Vous êtes musicologue, directrice de l'Observatoire musical français, l'OMF, à la Sorbonne, et donc Canal Académie est partenaire. Et vous vous êtes naturellement intéressée à l'histoire de la musique à l'Académie des Beaux-Arts. Pourquoi est-ce que vous faites ces recherches déjà ?
Parce que notre laboratoire est spécialiste de l'histoire de la musique en France. Et l'Académie des Beaux-Arts, à travers sa section de composition musicale, est peut-être le plus beau fleuron de la musique française.
Dès 1570, vous notez qu'il existe une académie de poésie et de musique, mais il ne s'agit pas à proprement parler d'académie au sens où on l'entend aujourd'hui.
Il s'agit d'une académie sur le modèle ancien.
C'est-à-dire ?
Toute cette histoire nous ramène bien sûr au temps de Platon, et puis ensuite à la Renaissance italienne, où on voit apparaître des académies de peinture, mais aussi des académies beaucoup plus savantes. Et je crois qu'il ne faudra jamais oublier dans toute cette histoire qu'il existe des académies savantes et des académies d'artistes. L'académie de poésie et musique est assez spéciale. Il y a des musiciens et des auditeurs. Donc c'est bien au modèle des académies de concert, comme il y en aura beaucoup au XVIIIe siècle, que se rattache ce premier essai français, qui n'a rien à voir avec l'Institut de France.
D'accord. C'est à peu près sur le même modèle qu'est créée une académie de musique en 1669. C'est un peu une structure aussi de concert ou d'exécution de la musique ?
Oui, mais cette fois-ci, le contexte est différent, puisqu'en 1635... avait été créée l'Académie française. Là, il s'agit bien d'une académie savante. Quelques années plus tard, en 1648, je crois, l'Académie de peinture et de sculpture. Et là, le souhait était de donner une visibilité aux artistes, une visibilité et une dignité. Parce qu'il ne faut pas oublier que les arts, les beaux-arts, c'était des arts mécaniques. Or, la musique n'est pas un art mécanique. Elle fait partie, avec la poésie, des arts nobles. D'ailleurs, la musique est-elle un art ? Victor Hugo se posait la question et il ajoutait « elle se ride ».
Qu'est-ce qu'un art mécanique ?
Un art manuel, en fait. C'était des arts manuels. Et je crois ne pas me tromper en disant que la peinture et la sculpture ont vraiment accédé à la dignité d'art noble au XVIIIe siècle. En fait, l'artiste, anciennement, c'était un artisan. Et la musique, dans tout ça, elle était rangée avec les sciences au Moyen-Âge. Et quand ces académies vont se créer, y compris l'Académie de musique, qui est en fait un théâtre d'opéra, le privilège sera longtemps à Lully. Et puis ensuite, on verra arriver à la mort de Lully en 1687, d'autres compositeurs comme Colas, Marais. Mais vous voyez qu'il s'agit, à travers notre futur opéra, d'une académie très spéciale. Nous sommes dans le modèle de nouveau représentation-concert. L'académie savante, c'est-à-dire les questions qui pouvaient être des questions théoriques en musique, elles vont être discutées à l'Académie des sciences, qui s'ouvre en 1666, quand Rameau et Rousseau viendront défendre leurs théories. Ce sera toujours à l'Académie des sciences. Donc il ne faut pas oublier ce qui peut apparaître comme une ambiguïté, mais ce qui en fait est lié au statut même de la musique. D'un côté, un art qui peut faire plaisir, qui peut divertir, et d'un autre côté, une science. Et à aucun moment, quelque chose de véritablement manuel, à travers un art qui, dans le fond, est celui du temps. La musique, c'est du vent.
Est-ce qu'il y a déjà une différenciation entre la composition et l'interprétation ? Et est-ce que les compositeurs font partie des savants ou de ceux, justement, qui sont plutôt dans le manuel ?
Pendant longtemps, quand on était compositeur, on était interprète. Les fonctions n'étaient pas du tout dissociées.
Souvent chef d'orchestre.
Et il est vrai que dans les maisons d'opéra, c'est tout à fait différent, parce que là, on a besoin d'interprètes, si vous voulez. Donc, à l'Académie de musique, Les choses ne peuvent pas aller comme dans un salon ou dans une église, où l'organiste est aussi compositeur, bien sûr. Hein. Pensez au travail de Bach, par exemple, hein, dans l'Europe ancienne. Je veux dire, un compositeur est un interprète. La dissociation date seulement de l'époque moderne. Mais pour revenir aux académies, je crois qu'il y a encore un autre souci. C'est celui de la transmission et de l'enseignement, que l'on voit très bien exister à travers les académies des arts, chez nous, à travers le prix de Rome. Mais ce prix de Rome qui n'arrive en musique que très très tard, en 1803, alors que les premiers artistes font déjà des concours dans d'autres disciplines. Bon, les disciplines qui sont les premières, à savoir la peinture et la sculpture, la gravure n'arrive aussi que plus tard, et l'Académie d'architecture est postérieure même à l'Académie de musique. Mais vous voyez que le statut des musiciens, à toutes les époques, a été un peu différent de celui des autres artistes, une raison de plus pour s'y intéresser.
Étape suivante, 1795, juste après la Révolution qui, elle, fait table rase de toutes ces institutions. 1795, restauration des académies. Et il y a donc une section de littérature et de beaux-arts. Cette fois-ci, c'est bien des compositeurs qui sont
absolument
à l'honneur.
Ce sont des compositeurs, les trois premiers compositeurs qui vont être nommés à l'Institut national des sciences et des arts seront Gossec, grand maître déjà de l'Ancien Régime, mais musicien révolutionnaire. On ne pouvait pas être nommé en 1795 quand on n'avait pas participé aux musiques de la Révolution. Grétry, autre grand maître de l'Ancien Régime, mais cette fois-ci davantage dans l'opéra comique. Et puis Méhul, musicien beaucoup plus jeune, mais lui aussi a participé aux musiques de la Révolution. Et pendant un certain temps, même longtemps, 20 ans, ces musiciens ne vont être que trois parmi les autres académiciens. Puis on verra apparaître une section des beaux-arts et bientôt une section de composition musicale. Vous voyez que l'expression est cette fois-ci très claire. Hein, ce sont des compositeurs qui sont invités à l'académie.
Donc ça, c'est la date de 1816 hein, à laquelle vous faites référence.
Voilà, 1816, c'est aussi
la création de l'Académie des Beaux-Arts en tant que telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Absolument, avec une section de composition musicale. Et en 1816, trois nouveaux compositeurs. Donc six compositeurs au total pour un peu plus de 20 académiciens. Aujourd'hui, il y a 8 fauteuils dévolu à la musique pour 57, vous voyez que la proportion n'est pas très différente hein, de la création de l'Institut à nos jours.
Et la théorie musicale dont vous parliez un peu plus tôt, qui était présentée autrefois devant l'Académie des sciences, où est sa place en 1816 à l'Académie des Beaux-Arts ?
Alors il semble bien que dans un premier temps, cette spécialité ait été oubliée. On s'en souvient, en 1815, en créant cette fois-ci une section de théorie des arts, qui va devenir assez rapidement celle des académiciens libres et celle qui est aujourd'hui, depuis 1956, je crois, celle des membres libres. Alors là, on a vu siéger parmi les titulaires quelques musicographes, critiques, mais en très petit nombre. Hein, je pense à Adolphe Bochot, grand spécialiste de Berlioz, hein, mais aussi de Mozart, René Duménil, qui a siégé lui aussi parmi les membres libres, qui est aussi spécialiste de Flaubert et d'un certain nombre d'hommes de lettres, mais qui a écrit de très beaux ouvrages sur la musique dans l'entre-deux-guerres, par exemple, ou sur le rythme musical, un livre qui passionne toujours aujourd'hui, un sujet dont on n'aura jamais fait le tour. Et puis, aujourd'hui, on voit apparaître parmi les membres libres, une seule personne véritablement attachée à la musique, qui est Hugues Gall.
Ancien directeur de l'Opéra
voilà.
de Paris.
Il y en a eu un autre dans le passé, c'était Jacques Rouchet, hein, élu en 1924. Donc, à l'exception des directeurs d'opéra, et ça nous obligera à parler de l'importance de l'opéra dans la carrière des compositeurs autrefois, donc des directeurs d'opéra et quelques rares critiques, musicographes, musicologues, cette section est faite véritablement pour les compositeurs. Et des compositeurs, j'en ai recensé un peu plus de 70 parmi les membres titulaires hein, de 1795 jusqu'à nos jours.
Alors, parlons peut-être des critères sur lesquels ces compositeurs sont choisis, parce qu'on voit que certains compositeurs ont été élus en tant que correspondant et non pas en tant que membre titulaire. Dès le début, c'est un vote hein, entre académiciens, donc une cooptation. Sur quels critères ? On parlait de l'opéra. Est-ce que faire un opéra était important, surtout au XIXe siècle ?
Alors, je ne sais pas si les académiciens seraient heureux qu'on parle des critères qui ont été les leurs dans les différentes élections. Mais enfin, les procès-verbaux sont là pour nous guider. Et si vous le voulez bien, nous ne parlerons que de ceux qui ne sont plus de ce monde. Les procès-verbaux, comme vous le savez, sont même édités maintenant jusqu'en 1844. Donc on peut lire, pas les raisons, peut-être, mais on y voit au moins combien de voix ont obtenu les uns et les autres. Et en considérant les listes, on peut arriver effectivement à un certain nombre de conclusions.
Et des coïncidences quand même.
Peut-être. Alors naturellement, il faut être français. Les Spontini, Cherubini, Carafa, qui ont siégé à l'Académie des Beaux-Arts, étaient naturalisés français. Dans un premier temps, c'est-à-dire dans les premiers moments, il faut...
Vous indiquez aussi qu'il y a une section d'associés étrangers.
Absolument.
Où peuvent siéger des compositeurs étrangers.
Voilà. Et le premier qui a été élu, là, c'est Haydn. Dès 1801, et quand on sait l'importance de Haydn dans le monde symphonique, l'importance aussi de ses oratorios, y compris à Paris à l'époque, on ne peut pas être étonné. Et dans cette section, puisque nous parlons des associés étrangers, on y verra même Brahms, mais à l'extrême fin de sa vie. En fait, on sait combien Brahms a été contesté, et je crois que là, les documents d'archives et les témoignages du temps nous disent que Théodore Dubois n'a peut-être pas été étranger à cette élection. Donc vous voyez que je donne l'exemple de Théodore Dubois parce qu'il est sûr qu'il y a aussi des questions de goût, des questions d'entre-gens de la part des compositeurs, c'est-à-dire... tout un univers, je crois, de comportements et de réactions dont il sera difficile de parler ici. Mais si nous allons vers des critères plus objectifs, il est sûr qu'il fallait avoir écrit pour le théâtre lyrique. Et tous ces premiers académiciens sont des compositeurs d'opéra. D'ailleurs, il est intéressant de comparer la liste des compositeurs qui sont beaucoup joués à l'Opéra de Paris, au XIXe siècle, par exemple, bon, mis à part Mozart, qui n'était plus de ce monde, et Wagner, qui naturellement n'a pas été membre après ce qu'il avait osé écrire au début des années 1870. Donc Wagner n'a pas été membre de cette compagnie, il ne pouvait pas l'être. Mais tous les autres sont les compositeurs qui ont le mieux réussi à l'Opéra de Paris, sans aucun conteste. Aubert, Halévy, Donizetti n'a été que correspondant.
Oui,
mais Rossini... est le plus jeune à être élu comme titulaire, 31 ans.
Associé étranger.
31 ans, Rossini, comme associé étranger, c'est effectivement le plus jeune. Tout de suite après, c'est Méhul, le premier. Pourquoi ? Parce qu'au XVIIIe siècle, on nommait les académiciens beaucoup plus jeunes. Il y en a même un qui a été élu à 20 ans. Un peintre a été élu à 20 ans. Il y avait des femmes aussi au XVIIIe siècle. Il faut dire que jusqu'à une date très récente, 2005, parmi les compositeurs, il n'y a que des hommes. Non seulement donc il fallait être français, mais il valait mieux être un compositeur.
Et nous saluons l'élection d'Edith Kenachisi en 2005.
Tout à fait. Ce n'est pas la première femme qui soit entrée à l'Institut. Vous savez bien que c'est Marguerite Yourcenar,
la française.
1980, voilà. Elle était déjà, je crois, à l'Académie de Belgique, avant d'être nommée chez nous. Mais c'est vrai que 2005, c'est une date importante pour l'histoire du féminisme à l'Académie de Beaux-Arts en ce qui concerne la section de composition musicale. Donc, il faut écrire des opéras et on peut s'interroger à ce moment-là sur la raison pour laquelle, par exemple, Onslow est élu en 1842. Bon, ce n'est pas qu'il se soit complètement désintéressé de l'opéra, mais c'est quand même un grand représentant de la musique instrumentale. En plus, il n'est pas à Paris parce qu'il valait beaucoup mieux pour ses compositeurs habiter Paris. Prenez le cas, par exemple, de Théodore Gouvy. Qui connaît aujourd'hui Théodore Gouvy ? C'est un peu dommage. Heureusement, l'Institut Gouvy se donne beaucoup de mal pour réhabiliter ce compositeur. Il réussit d'ailleurs parfaitement. Théodore Gouvy, qui est ce qu'on appelle un frontalier entre France et Allemagne, ce qui déjà, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas un avantage. Il vaut mieux être parisien et Gouvy n'aimait pas beaucoup Paris. Qui plus est, Gouvy, c'est un compositeur de musique instrumentale.
Donc, aucune place pour lui à la section de composition musicale ou...
Absolument. Il réussit très péniblement, lui qui était né en 1819, à se faire élire comme correspondant à l'extrême fin de sa vie, c'est-à-dire en 1894. C'est déjà un record. Donc, il faut être français, du sexe alors, masculin. Excusez-moi.
Est-ce qu'on peut écouter peut-être un peu de, justement, une œuvre de Théodore Gouvy? Vous nous avez apporté, je vous en remercie, la petite suite gauloise, opus 90, écrite en 1888. Et nous entendons ici le mouvement qui s'appelle Tambourin, interprété par les solistes de Prades, dirigé par Michel Létiek. Daniel Piston, vous nous parliez un tout petit peu plus tôt des critères sur lesquels on peut entrer à la section de composition musicale à l'Académie des Beaux-Arts. On disait qu'il s'agissait majoritairement ou exclusivement jusqu'en 2005 de personnes de sexe masculin, de compositeurs d'opéra, de nationalité française. Et du coup, on se demande, mais pourquoi Bizet et Debussy n'ont pas été à l'Académie des Beaux-Arts? Ils étaient trop jeunes. Ils sont morts trop jeunes.
Bizet est mort trop jeune. Certainement. Debussy, on sait que lorsque Charles-Marie Vidor était entré à l'Académie, la femme de Debussy, Emma, lui avait fait promettre de s'intéresser aussi à l'élection de Claude Debussy. Et on possède dans les archives de l'Institut une lettre signée de Debussy, il ne pouvait plus l'écrire, c'était très peu de temps avant sa mort, par laquelle il demande à faire partie, je cite, de cette illustre compagnie. Malheureusement, c'était trop tard, puisque c'est cette année même, il était déjà très malade. C'était déjà l'époque où il écrivait que faire sa toilette ressemblait à quelque chose d'impossible. Je me souviens déjà avant de signer cette lettre. Donc pour Debussy, c'était trop tard. Puis n'oubliez pas que Debussy, on le voit dans les PV des séances, il était considéré comme un dangereux révolutionnaire. C'était de la musique sans forme que celle des envois. Il avait été pris de Rome et on peut s'intéresser. Le chœur et orchestre de Paris-Sorbonne s'est intéressé à ces fameuses compositions écrites pour le concours de Rome. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces académiciens étaient des prix de Rome. Étaient des premiers prix de Rome.
Organisés par l'Institut.
Tout à fait. Et Debussy avait été premier prix de Rome. Il ne s'est pas beaucoup plu à Rome. Il faut dire d'ailleurs qu'au XIXe siècle, Rome n'avait plus les mêmes attraits pour les musiciens que pour d'autres artistes.
Vous nous avez apporté là aussi une musique qui est Le Printemps. Donc
une des compositions qui a été écrite
pour le concours.
Donc c'est une œuvre de jeunesse, c'est un chœur, puisqu'il fallait, avant d'écrire la grande cantate de la mise en loge, il fallait se plier à la fugue et à l'écriture chorale. Donc, Le Printemps, il y a plusieurs compositions de ce nom de chez Debussy, mais celle-là, c'est un chœur de 1884 que le chœur et orchestre de Paris-Sorbonne donc, a enregistré pour la première fois en 1993.
Dirigé par Jacques Grimbert. Daniel Piston pour être élu aussi à la section de composition musicale. Il faut avoir eu un certain succès parisien, surtout à l'opéra, donc on comprend.
Oui, pour revenir à l'opéra, il est quand même certains cas intéressants. Par exemple, Auber, qui, après le succès de la muette de Portici, 1829, entre cette année-là à l'Académie. Ou bien Massenet, succès du Roi de Lahore, 1877, professeur de composition au Conservatoire le 1er octobre 1878 et élu à l'Académie des Beaux-Arts le 30 novembre de cette même année. Donc là, on voit très très bien le lien entre le succès au premier théâtre lyrique national, la nomination comme professeur de composition au conservatoire et quasi immédiatement après, l'élection à l'Académie des Beaux-Arts. Je pense que Massenet est le cas le plus évident de ce parcours idéal du membre de la section de composition musicale.
Et vous avez noté une telle coïncidence aussi pour Ligeti?
Oui, alors Ligeti me semble appartenir à une nouvelle façon d'élire les compositeurs. Et je dirais peut-être qu'un tournant se prend déjà dans les années 50. Par exemple, l'élection de Paul Paré, 1950. C'est un grand chef d'orchestre. L'élection de Louis Aubert à 79 ans, en 1956. Marcel Dupré, la même année, à 70 ans. C'est un organiste. Bon, c'est vrai qu'il a eu aussi des fonctions officielles. Beaucoup plus significatives, Serge Nigue, 1989. Jean-Louis Florence, 1995. Et on le disait tout à l'heure, Edith Canaccisi, en 2005. Ce ne sont pas des compositeurs d'opéra.
Mais s'il y en a plus.
Messiaen non plus, mais Messiaen était professeur au conservatoire et l'organiste en vue de la Trinité. Donc son élection dans les années 60, on la comprend, même si c'est aussi, lui, une forme de révolutionnaire. Décidément, Debussy n'a vraiment pas vécu suffisamment. Il serait peut-être entré lui aussi à l'Institut.
Oui, parce que Messiaen, en tant que professeur d'harmonie, justement, révolutionnait le conservatoire en essayant d'enseigner autre chose, aller plus loin que la musique française de Debussy et de Ravel.
Tout à fait. D'ailleurs, cette micro-histoire de la section de composition musicale de l'Académie des Beaux-Arts nous en dit beaucoup sur les pratiques musicales européennes. Je reviens aux années...
sur les influences.
Et sur les influences. Je reviens aux années 90. Non seulement, donc, avec la nomination, l'élection de Serge Nigue, de Jean-Louis Florence, on voit que les choses ont changé. Que dire aussi de Charles Trenet, 1999, c'est quand même la première fois qu'un poète de la chanson entre à l'Institut de France. Et puis, le cas de Ligeti que vous souleviez. Ligeti est donc élu associé étranger en 1998. Il ne lui restait malheureusement que 8 ans à vivre. Et on peut se demander, qu'est-ce qui conduit les académiciens? Donc là, nous sommes dans une actualité brûlante, mais risquons quelques hypothèses. Une carrière opératique. Le Grand Macabre, certes, est une œuvre à part. Le Grand Macabre était composé 20 ans auparavant par Ligeti et 98 correspond justement à sa reprise au Châtelet. C'est peut-être pas indifférent, mais je crois que la place de l'opéra dans notre société n'est plus celle du 19e siècle. Non, moi j'y verrais autre chose et je penserais plutôt à 2001, Odyssée de l'espace, et à la place de la musique de Ligeti dans les films de Kubrick, puisque Kubrick revient à Ligeti 30 ans après, ce requiem de Ligeti dans 2001, Odyssée de l'espace, n'a-t-il pas joué un rôle dans l'élection de celui qui est un très grand compositeur sûrement, qui apporte une nouvelle façon d'écrire de la musique, c'est vrai, ça a été aussi un très grand professeur de composition, mais qui plus est, il a franchi la porte de ce qu'on appelle le grand public, avec une musique savante, musica d'arte, comme disent maintenant les Italiens, j'aime beaucoup cette expression, on n'en a pas l'équivalent dans la France contemporaine, mais elle veut dire beaucoup de choses. Il y a donc la musique commerciale et la musique artistique. N'oublions pas d'ailleurs que la musique de film est souvent rangée avec la musique classique dans les bacs. Et ça aussi, et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de la présence de la musique dite savante dans la publicité et au cinéma. Donc, mon hypothèse, c'est que, bien sûr, le succès de Ligeti à travers Kubrick a pu jouer un rôle.
Ce serait intéressant de le vérifier. Daniel Piston, nous avons déjà enregistré ensemble une émission sur Berlioz et le fait qu'il ait eu du mal à entrer à l'Académie des Beaux-Arts alors même qu'il avait remporté le prix de Rome. Bon, on sait combien il a été malheureux à Rome. Et vous avez trouvé la lettre qui lui a permis de rentrer à l'Académie des Beaux-Arts et je trouve que cette lettre est très intéressante et très révélatrice des démarches qu'il fallait faire.
Tout à fait. Cette lettre donc est dans les archives de l'Institut de France et c'est en 1856 qu'il écrit au président « La perte si regrettable que les arts viennent de faire dans la personne de M. Adolphe Adam laisse une place vacante dans la section de musique de l'Institut. »
Donc il se prépare déjà à rendre hommage à la personne à laquelle il pourra succéder à l'Académie des Beaux-Arts. C'est très malin.
Deuxième paragraphe. Le rang honorable qui me fut assigné sur la liste des candidats lors de la dernière élection me fait espérer que l'Académie voudra bien accueillir ma nouvelle candidature avec bienveillance. En 54, il avait été doublé par Clapisson. Troisième paragraphe. Depuis les deux dernières années, le nombre de mes ouvrages ne s'est pas beaucoup accru. Mais il en est un, L'enfance du Christ, oratorio en trois parties, que j'ai eu le bonheur de voir accueillir en France avec une faveur particulière et dont le succès s'est rapidement répandu à l'étranger. Commentaire. Vous voyez, il faut avoir été joué avec succès.
Ouais, une exposition médiatique, comme on dirait aujourd'hui.
Exactement. Veuillez, Monsieur le Président, soumettre à l'appréciation de l'Académie la liste ci-jointe de mes ouvrages tous publiés aujourd'hui. Et là, il en est trois pages. Et au terme des trois pages, il ajoute, sous sa signature, ex-pensionnaire de l'Académie de France à Rome.
L'importance d'avoir gagné le prix de Rome et du coup d'avoir déjà mis un pied à l'Institut.
Tout à fait. Et à aucun moment, il ne parle de son activité de critique. Lui qui était fort connu, on disait même, les méchantes langues disaient, plus connu comme critique que comme compositeur, qu'apprécié comme compositeur. Voilà donc la lettre qui a permis à Berlioz d'entrer à l'Institut de France.
De composition musicale. Vous notez aussi, Madame Piston, que les Italiens étaient extrêmement présents au tout début de l'Académie des Beaux-Arts, surtout évidemment dans la section des associés étrangers, et qu'elle l'est évidemment beaucoup moins aujourd'hui. C'est intéressant, par ces listes que vous avez établies, on voit vraiment bien les goûts et les influences d'une époque.
Absolument. Rossini, qui encore une fois est le plus jeune, a entré en 1823. Le Barbier date de 1816, le Barbier de Séville. Donc il entre très jeune, il entre avant Guillaume Tell. Et c'est d'ailleurs lui qui restera le plus longtemps à l'Académie avec Ambroise Thomas, parmi les musiciens, 45 ans. Mais il faut dire que tous les deux sont entrés très jeunes. Donc on voit très très bien comment dans un premier temps on admet beaucoup d'Italiens, par exemple Paisiello, l'auteur de cette Nina qui faisait Nina o la pazza per amore, qui faisait pleurer Berlioz encore, ou qui faisait s'extasier Berlioz. Donc un nombre important d'Italiens. Et on voit ensuite comment, je le disais tout à l'heure, on admet encore Verdi en 1864, et là encore la date n'est pas innocente, 1864 pour Verdi, c'est après la trilogie, la fameuse trilogie. Il ne faut pas oublier qu'il est joué à l'Opéra de Paris depuis 1947, mais il a peu de succès. Avec Jérusalem, par exemple, il n'a pas beaucoup de succès. Il faut attendre vraiment des œuvres comme la Traviata, la fameuse trilogie. La Traviata a été jouée sous le titre de l'héroïne Violetta, parce que la Traviata, la dévoyée, ce n'était pas très correct pour la critique. Donc Verdi était joué à l'opéra, mais il était joué aussi au troisième théâtre lyrique de Paris, qui s'appelait précisément le théâtre lyrique. Donc, dans les années 60, Verdi était bien connu à Paris. Et même s'il n'aimait pas, comme il le disait, la grande boutique pour parler de l'Opéra de Paris, il était encore suffisamment connu pour être admis en tant qu'Italien. Mais on est loin de l'époque donc, des Paisiello, Zingarelli, qui étaient nombreux parmi les premiers associés étrangers. On voit arriver au 19e siècle, au 20e siècle pardon, des noms tout à fait différents. Déjà à la fin du 19e, regardez Gewaert, qui est un Belge grand théoricien. C'est parce qu'il est directeur du conservatoire de Bruxelles qu'il est admis parmi les associés étrangers. Donc être professeur d'harmonie ou professeur de composition, c'est aussi le marchepied ans pour entrer à l'Institut, même quand il s'agit de conservatoires étrangers.
Ce qui a noté, c'est que non seulement dans les correspondants, il y a eu beaucoup de compositeurs parmi les correspondants, et on peut s'interroger sur la place, pourquoi certains compositeurs sont élus correspondants et non pas associés étrangers. Bon. Et on note dernièrement, et notamment actuellement, l'entrée d'interprètes. Et il n'y a plus aujourd'hui de compositeurs parmi les correspondants. Les correspondants aujourd'hui sont musicologues ou interprètes. Et l'arrivée, l'entrée des interprètes est très récente.
Alors si nous considérons les associés étrangers, je ne vois pas d'interprète avant Arthur Rubinstein. Et la date de son entrée est intéressante. C'est 1971. Il avait 86 ans. Donc le premier, à ma connaissance, est un pianiste. Le second, c'est Yehudi Menuhin, 1986. Il avait 70 ans. Et le troisième, Rostropovitch, en 87, il avait 60 ans. Je veux dire par là que petit à petit, on les prend un peu plus jeunes. Mais pour qu'un associé étranger soit élu à l'Académie, il a donc fallu attendre Rubinstein en 71 et il avait 86 ans. Il lui restait quand même 11 ans à vivre, vous me direz. Mais vous voyez avec quelle difficulté on admet les interprètes.
Pourquoi ?
Parce que c'est une section de composition musicale. Et que si l'on n'est pas compositeur, bon, par exemple, des personnages comme Gewhardt, dont je disais tout à l'heure qu'il était directeur du conservatoire de Bruxelles, c'est un grand théoricien, c'est un musicologue, mais c'est aussi un compositeur. Et je ne vois pas dans la liste de musiciens Meyerbeer en tête. Pensez que Meyerbeer a été élu associé étranger en 1834. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'a que 40 ans. C'est très jeune au XIXe siècle, être élu à 40 ans. Et il est élu après Robert le Diable. C'est un cas tout à fait intéressant. Il n'a même pas encore écrit Les Huguenots, qui va être son plus grand succès 2 ans plus tard. Autrement dit, il suffit d'avoir un succès aussi éclatant que Robert le Diable en 1831 pour 3 ans après se faire élire à l'Institut. Et tous, qu'il s'agisse de Salieri qui est associé étranger en 1805, c'est le deuxième après Haydn, c'est Salieri. Mais il ne faut pas oublier que Salieri, non seulement il a fait jouer à l'opéra les Danaïdes dans les années 80 du XVIIIe siècle, mais ça a été un très grand professeur de composition. C'était le professeur de Beethoven, entre autres, et aussi de Meyerbeer, puisqu'on en parle. Donc, qu'il s'agisse de Paisiel, de Paderewski, parce que certes, il y a eu dans les associés étrangers un autre très grand interprète, élu en 1926, c'est Paderewski, mais il est compositeur, c'est un grand pianiste, et il ne faut pas oublier aussi que depuis les lendemains de la Première Guerre, Paderewski, il a des fonctions politiques. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore une autre raison à la représentativité du compositeur-interprète Paderewski pour qu'il soit élu en 1926. Mais c'est un cas quand même aussi un peu spécial. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le cas d'Honegger. Ça va nous amener au groupe des six. Comme vous le savez, le groupe des six, en 1920, c'est un groupe de jeunes révolutionnaires de la musique, autour de Cocteau. La polytonalité de Millau, ça fait grincer les dents. Et ce sont les nouveaux jeunes. Ils se sont baptisés ainsi d'ailleurs, les nouveaux jeunes. Or, que feraient des révolutionnaires à l'Institut ? Bien que, on pourra y revenir. Le conservatisme ou l'académisme ne sont peut-être pas les attributs des académiciens. Nous y reviendrons. Mais dans ce groupe des six, donc ce groupe de six amis qui ne sont pas véritablement unis par une esthétique précise, mais avant tout par l'amitié, comme ils aimaient à le dire, le premier qui entre à l'Institut, c'est Honegger, en 1952, et il entre comme associé étranger, puisqu'il est suisse. Pourquoi Honegger entre-t-il le premier ? Je pense qu'il faut bien voir que Jeanne au bûcher, depuis les années 30, ce n'est pas une œuvre révolutionnaire, et que sans doute Honegger est le moins révolutionnaire des six. Alors, c'est bien possible que ce soit déjà le grand succès de Jeanne au bûcher qui, plus de 20 ans auparavant, prépare l'élection d'Honegger. Et puis ensuite, Millau. Mais Millau très très tard. Millau à la veille de sa disparition, parce que Millau, lui, était véritablement quelqu'un qui bouleversait le langage musical et qui dérangeait. Et il a fallu bien sûr qu'il devienne professeur au conservatoire et qu'à ce titre, il puisse, à l'extrême fin de sa carrière, entrer à l'Institut. Donc vous voyez comme l'histoire du groupe des six nous apprendrait l'évolution des mœurs, des agissements et finalement des critères. Il faut bien dire que quand on voit entrer Xenakis aussi à l'Institut, on se dit que tout a changé.
Élève de Messiaen.
Oui, tout juste. Tout juste architecte, mais universitaire. Est-ce que cet aspect universitaire a joué? Ou bien est-ce qu'il faut considérer que Xenakis, qui lui aussi apporte une nouvelle façon d'écrire, comme Ligeti, même, si ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un homme de science aussi, Xenakis. Donc on voit bien qu'avec Xenakis, avec Charles Trenet, et avec tant d'autres, c'est toute l'optique finalement de la section et peut-être même de l'Académie des Beaux-Arts. Je pense que l'on ferait des remarques tout à fait semblables sur des peintres ou des sculpteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce terme académisme, il est malvenu. D'abord, il est récent. Je ne pense pas qu'on se soit attaché à un terme semblable avant la seconde moitié du XIXe siècle. Il y avait auparavant des académistes. C'est ce que donne le dictionnaire de Littré. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'académies en France, donc quand on appartenait à une académie, qui pour la musique était souvent une académie de concert, toutes les grandes villes avaient leur académie de concert au XVIIIe siècle. Donc on était un académiste et pas un académicien. Je ferai quand même la nuance. Donc un académiste, mais le terme académisme, moi je le vois apparaître au moment où en peinture, on a voulu lutter contre le salon, contre les académiciens du salon, et en musique, contre toutes les formes d'impressionnisme. S'il est vrai que le terme académisme date des années 1870, il faudra bien voir que c'est effectivement l'époque de l'apparition de l'impressionnisme, et que les envois de Rome de Debussy, pour y revenir, étaient qualifiés d'impressionnistes. Qui a écrit ça sur le PV? Ce paragraphe m'a toujours beaucoup intéressée aux archives de l'Institut. Il est possible que ce soit Saint-Saëns. En tout cas, c'était pour eux de la musique sans forme. Mais Saint-Saëns, d'ailleurs, revenons-y à Saint-Saëns. Saint-Saëns a échoué au Prix de Rome. Saint-Saëns a échoué dans le domaine de l'opéra, dans sa jeunesse. Et pourtant, en 1881, il devient académicien. Que s'est-il passé? Bon, il faut dire qu'il était né en 1835, qu'à cet âge-là, c'était un artiste très respectable, en 1881. Et je pense que c'est en fait la Société nationale de musique, dont il a été l'un des cofondateurs, qui se donnait pour mission Ars Gallica, c'est-à-dire musique française, après la défaite du début des années 70, que c'est le grand investissement qui a été le sien dans la défense de la musique française qui fait qu'en 1881, il est la figure, une des figures très importantes du monde musical français et qu'il est élu à l'Institut. Mais alors voilà le cas donc, de quelqu'un qui n'est pas élu pour ses, comme Meyerbeer, pour ses triomphes à l'opéra et qui n'est pas élu parce qu'il a le prix de Rome, qui n'est pas élu non plus pour son activité au conservatoire. Voilà le cas, un cas assez particulier, donc qui est celui de Saint-Saëns. On en trouverait d'autres. Vous avez sur Canal Académie des émissions sur Félicien David, je vous y renvoie. En voilà un autre, Succès du désert en 1844. Le cas d'un Saint-Simonien formé dans une maîtrise du sud de la France, mais qui va se glisser sur les scènes lyriques. Et peut-être les succès de Félicien David, finalement au théâtre, ne sont-ils pas étrangers à son élection, bien des années après le désert. Désert avec lequel il faut quand même reconnaître qu'il crée un genre dans la musique française qui s'appelle l'ode symphonie. Une ode symphonie qui sera d'ailleurs souvent reprise par d'autres compositeurs. Donc vous voyez que les créateurs innovants ont leur place à l'Institut. Ceux qui innovent, ceux qui défendent la musique française, donc là nous sommes loin de l'opéra, loin des professeurs de conservatoire, même si les deux tâches peuvent être réunies dans un même individu. Il y a donc encore d'autres raisons pour lesquels on entre à l'Institut quand on est musicien.
Voici un extrait du Chant du Muezzin, un des mouvements de l'œuvre Le Désert de Félicien David, composé en 1844. Voici l'interprétation de l'Orchestre radio-symphonique de Berlin, dirigé par Guida. Alors, il faut le noter, une des grandes figures de la vie musicale en France au XXe siècle, Marcel Landowski, a une telle aura à l'Institut, alors même qu'il était compositeur, qu'il en est devenu chancelier. C'est bien une belle exception.
Tout à fait. Il y avait déjà eu des secrétaires perpétuels, compositeurs, hein, Charles-Marie Vidor en 1914, Adolphe Bouchot, le cas précisément d'un critique et musicographe, 1937, Emmanuel Bondeville, en 1964, compositeur auquel il faudra se réintéresser, encore un Normand, il y a pas mal de Normands musiciens à l'Académie des Beaux-Arts, et Marcel Landowski, donc, qui est secrétaire perpétuel en 86, devient chancelier de l'Institut en 94. Et je peux témoigner qu'il a fait beaucoup pour la musique à l'Académie des Beaux-Arts, la musique en France, on le sait. Il se préoccupait effectivement beaucoup de la place de la musique dans la société. Il avait déploré que l'Institut ne soit pas suffisamment consulté par les instances ministérielles, ce qui, je crois, est fait maintenant beaucoup plus régulièrement. Et je pense naturellement qu'il ne faut pas oublier aussi sa carrière de compositeur.
Donc voici la symphonie numéro 4 composée en 1988. Voici le deuxième mouvement dirigé par Georges Prêtre à la tête de l'Orchestre national de France.
Thank you.
Daniel Piston en parlait un tout petit peu plus tôt de la place de la théorie musicale à l'Académie des Beaux-Arts. Il faut bien noter qu'il y a eu un début de dictionnaire de l'Académie des Beaux-Arts qui incluait certains mots de musique.
Tout à fait, et je pense que la lecture des procès-verbaux, y compris ceux qui sont édités donc jusqu'en 1944, montre bien l'importance qu'avait la préparation de ce dictionnaire à l'Académie des Beaux-Arts. On peut vraiment regretter qu'il se soit arrêté à la lettre G. Hein, il a été publié entre 1858 et 1909, mais préparé bien en amont. Et je crois qu'on ne prend pas suffisamment en considération, effectivement, les définitions, les rubriques qui concernent la musique dans ce dictionnaire des Beaux-Arts, qui ne me paraît pas assez connu des musiciens et dont je suis heureuse de parler aujourd'hui.
Il est accessible à plusieurs endroits ?
Il est à la Bibliothèque nationale. Ouais. Absolument. Je ne sais pas quelle est sa diffusion exacte. Il faudrait le vérifier sur le Sudoc, par exemple. Mais je peux dire que dans les travaux musicologiques, on le voit très rarement mentionné.
Vous vous êtes intéressé aussi, pour terminer cette émission, Daniel Piston, vous êtes intéressé aux missions que se sont fixées les académiciens des Beaux-Arts. Est-ce que vous pouvez en dire plus ?
Donc, d'après ce que nous venons de dire, on a l'impression que c'est finalement une nomination, une élection honorifique. Hein, c'est le couronnement d'une carrière, surtout à partir du 19e siècle, hein, puisqu'au 18e, je le répète, on était élu beaucoup plus jeune, mais la durée de vie n'était pas la même non plus. En fait, cet artiste, il a une mission. Sa mission, c'est certainement de contribuer à la renommée de l'art de son pays.
Il y a l'attribution des prix de Rome. Il y a eu pendant tout un temps la nomination du directeur du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
Oui, et je crois que la formation, donc l'attribution des prix de Rome, il faut bien ranger ça dans cette mission qui consiste à former les jeunes générations, hein, qui figurent dans les statuts. C'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, en matière de musique, on pense plutôt aux harmonies fanfares, hein, musique et formation, ou au conservatoire. Mais les prix de Rome, hein, pas seulement en musique, mais dans les autres disciplines aussi, c'est vrai qu'ils sont là pour encourager les jeunes générations. Ça me semble être très, très net. Il est vrai que l'Institut est là aussi pour donner son avis, l'avis d'artiste d'expérience, hein, ou d'homme de science d'expérience, sur la vie contemporaine, la vie artistique contemporaine. Aujourd'hui, donc je le disais tout à l'heure, Marcel Landowski disait que depuis 1975, donc ce dialogue entre notamment les ministères et l'Institut s'était rétabli. Moi, ce que je vois aussi, quand j'examine l'évolution des différentes académies depuis 1795 jusqu'à nos jours, ce qui m'apparaît très clairement, c'est ce passage de l'art vers la science. D'abord avec l'arrivée de musicologues correspondants, l'arrivée d'un compositeur comme Xenakis, on le disait tout à l'heure. Dans la vie musicale, je crois que c'est très clair, hein, la musique qui a toujours été une technique tend à retourner vers la science, la naissance de l'IRCAM le prouverait. On voit réapparaître d'ailleurs maintenant des diplômes entre sciences et musique. Nous en avons un entre les universités de Paris 6 et Paris 4, et cela sur la demande de l'université scientifique. C'est quand même intéressant. Et n'oubliez pas que l'Institut aime à se définir comme le Parlement du monde savant. Et cette définition s'appliquerait aussi à l'Académie des Beaux-Arts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement il faut être compositeur, mais peut-être aussi, avec l'élévation du niveau d'instruction, faire partie du monde savant.
Merci beaucoup, Daniel Piston, pour cet exposé sur l'Institut. Je renvoie aux différentes émissions que nous avons déjà enregistrées ensemble à Canal Académie. Merci pour votre présence et à bientôt.